c'est mon droit.
En nous privant de liberté et de notre autonomie, notamment économique, les hommes et l'État ont fait de nous des guerrières. Ce combat est quotidien. Nous le menons parce que ce sont nos vies qui sont en jeu. Vivre, c'est combattre. Et nous avons décidé de vivre.
Tous les mardis de 16h à 17h30
sur Radio Campus Grenoble 90.8
et quand tu veux sur radiorageuse.net ou campusgrenoble.org.
Je fais du stop.
Et toi, tu fais quoi dans la vie?
Je remplis un formulaire administratif.
Je dois remplir la case profession.
Je rencontre une amie d'amis.
C'est quoi déjà ton boulot?
Un repas de famille.
Et ça en est où ta recherche d'emploi?
En classe de CP.
Tu veux faire quoi quand tu seras grande?
Entrer en classe de 6e.
Quelle sera ta profession plus tard?
Entrer au lycée.
Préparez votre parcours de formation et votre parcours professionnel.
Pôle emploi.
Bilan professionnel personnalisé.
Assistante sociale.
Retour forcé vers l'emploi.
Discussion au coin d'une rue.
Et t'as pensé à ta retraite?
C'est quoi ton taf, ton job, ton gagne-pain?
Une question au cœur des rencontres, des interactions et des formulaires administratifs. Le travail comme structure sociale, comme structure de vie individuelle. Le travail comme moyen de survie. Le travail comme cadre individuel. Le travail comme accomplissement.
Et toi, pourquoi tu travailles? Ou pourquoi tu ne travailles pas? Est-ce qu'on fait notre taf pour gagner des sous ou parce qu'il a du sens? Parfois l'un, parfois l'autre, un peu les deux. Et c'est quoi la place du travail dans nos vies? Et qu'est-ce qu'on appelle travail?
Est-ce qu'une activité qui ne ramène pas un copec est un travail? Comme par exemple le combo ménage, popote, éducation de gosse? Et si on ne cotise pas pour la retraite, est-ce que c'est un travail? Et le travail du sexe, condamné par tout un pan de la société, comment faire pour qu'il soit reconnu comme du travail?
Et les luttes et les activités militantes, est-ce qu'on veut appeler ça du travail ou surtout pas? Est-ce que la valeur travail et la fierté d'être travailleur a encore du sens? Mais est-ce que cette fierté ne peut pas nous mener tout droit dans le mur de la méritocratie?
D'ailleurs, le 1er mai, c'est la fête du travail ou la fête des travailleurs et des travailleuses?
Aujourd'hui, avec Déjanré, on parlera du travail invisibilisé, le pourquoi du comment on travaille, les jobs de merde, le travail gratuit, le travail syndical, le travail du sexe, le sens du travail ou les imaginaires sans travail.
Autant de petits sujets qui nous permettront aujourd'hui de survoler cette immense question,
le travail.
Je pense que je me suis mis à travailler parce que c'était une opportunité, je sortais de formation et que ça me permettait d'approfondir ce que j'ai appris en formation. Est-ce que je trouve un sens dans mon travail? Alors, pas vraiment, non. En fait, pour moi, il y a un sens parce que j'ai appris des choses. Par contre, ce qu'on fait, en vrai, c'est changer des salles de bain fonctionnelles pour faire des salles de bain plus jolies pour des bourges. Donc ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, une grosse partie du travail, c'est ça.
Le rapport au travail, c'est super. Le chômage partiel, c'est pas mal, ouais. Mais bon, du coup, voilà. J'espère retaquer le boulot quand les restaurants vont réouvrir. Pourquoi? Pour manger. Ouais, pour m'acheter des vêtements, des culottes et des chaussettes. Non, franchement, pour manger, c'est uniquement pour mettre le pain sur la table, quoi. Tout simplement. Payer mon loyer, etc., etc. Oui, moi, j'aime bien, en fait, la restauration. J'aime faire à manger, j'aime faire la vaisselle, j'aime bien regarder, savoir quel vin correspond à quel plat et conseiller des gens. Après, voilà, je vais pas te mentir, là, de pas avoir travaillé puis d'avoir gagné quand même 1000 euros. C'était pas mal. Même moi, je me suis dit, waouh, ça m'était jamais arrivé. Un sens, hein. Bah, si tu veux, je fais la vaisselle. Donc, là, en l'occurrence, j'étais embauchée en tant que plongeuse. Donc, du coup, bah, moi, c'est comme si je faisais de la méditation, en fait. Mais après, c'est mon délire à moi. Donc, ouais, j'y mets un sens spirituel, même.
J'ai pas de droit de travail. En fait, je suis sans papier ici. Je suis algérienne. Et depuis 3 ans et quelques, je suis entre collectifs. Donc j'ai besoin d'un logement, un appartement adapté pour moi et mon mari et mes enfants. Ouais, c'est tout.
Les premières fois où j'ai travaillé, c'est parce que j'avais besoin d'argent. Ça, c'est ma première motivation, je pense, à travailler. Sinon, j'avais pas très envie, hein, faut bien l'avouer. Aussi, pas très envie parce que j'avais fait une formation en travail social et que je voyais pas la pertinence de travailler dans le travail social et participer à l'ordre social. En tant qu'anarchiste, ça la fout mal. Alors, j'ai quand même travaillé et je pense plus tard, j'ai retravaillé aussi dans ma vie parce que aussi, je pense, le travail amène une forme de reconnaissance sociale, que ce soit par le salaire, par le cadre que ça pose dans sa vie, le rythme qu'on prend, qu'est-ce qu'on peut raconter aux autres quand on discute de qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Et je pense que ouais, c'est en partie pour ça que j'ai aussi travaillé dans ma vie. J'ai plus tant besoin de cette reconnaissance. Non, en fait, non, j'ai quand même un truc de... En fait, je veux pas travailler. Je veux pas nourrir des patrons. Je veux pas nourrir l'État. Je veux pas participer à payer des impôts. Déjà que je le participe avec ma TVA, je vais pas participer plus à nourrir un État qui va ensuite... filer tout son pognon à l'armée, aller faire la guerre dans je sais plus combien de pays en fait. Du coup, dans l'absolu, je ne veux pas travailler. c'est compliqué la question du travail. En fait, je suis contre le travail salarié. En fait, je suis contre le fait de... J'ai pas envie de participer à nourrir un patron, etc. Par contre, dans ma vie, en fait, bah, d'une certaine manière, je travaille. Je suis organisée dans des collectifs. Je produis des légumes. Je me lève à des moments pour aller faire des trucs avec d'autres gens, je sais pas comment dire, je fournis une forme de travail. Déjà, je fournis un travail domestique, tout simplement.
Je suis bientôt à la retraite, mais j'ai beaucoup travaillé. Oui. Pour moi, le travail, c'était mettre ma pierre à l'édifice de la société. Voilà, et je bossais dans l'économie sociale et solidaire. Ah ben oui, sinon, je pense que j'aurais arrêté. Si je donne pas de sens à mon travail, en tout cas au travail que j'avais, je pense que j'aurais arrêté, j'aurais changé. Oui.
Alors pourquoi est-ce que je travaille ? Alors je travaille, au départ je travaille pour avoir un salaire en fait, donc c'est un peu idiot. Et puis après j'ai eu la chance d'avoir un travail, d'avoir pu choisir à un moment donné un travail qui pour moi avait du sens. Et donc je travaille aussi parce que j'ai l'impression d'avoir un métier qui peut être utile. Alors mon travail il a du sens parce que il tente de donner des outils aux personnes pour pouvoir se former, s'informer, se cultiver, se connaître les autres, comprendre le monde. Voilà. Je suis je trouve que j'ai de la chance d'avoir un métier qui a du sens. Je trouve que par contre les conditions dans lesquelles j'exerce aujourd'hui se dégradent à un tel point que même si le sens de mon... Enfin, même si mon travail a du sens, par contre, travailler aujourd'hui devient tellement pénible que parfois on perd de vue le sens justement.
Vous venez d'écouter la première partie du micro-trottoir enregistrée et montée par Zoé, réalisée lors de la manifestation du 1er mai à Grenoble. On va à présent écouter le morceau MBD de Chilla, suivi d'une chronique sur le sens du travail dans nos sociétés contemporaines.
Cette vie, vivre au crochet d'un chrono, attendre la mort sans raison de vivre, ivre, pété à l'oxygène, mine affûtée comme un opinel, j'ai lutté comme arborigène, j'ai pas joué la polichinelle, hey. La routine me tendait les bras, j'en foutais pas une grosse, j'ai pété des câbles, graissé des pattes, des sales gamins, fait baisser les bras, j'ai grammé des grammes, calme, calme, on me disait d'être stable, de trouver un taf afin de payer les taxes, assumer mes actes, hey. Puis définir les axes. Charbonner sans aimer, ramener la monnaie, s'abîmer le moral, se miner, ramonner. C'est jeune que j'ai pris conscience de la valeur de la vie. Je voulais que tout prenne un sens, mais je voulais pas parler d'avenir. Hey, attiré par l'espace, l'univers, je voulais découvrir le monde. J'ai fait face au dilemme pour un avenir.
J'ai quitté le navire à la nage, ouais. Quitté le navire à la nage. J'ai quitté le navire à la nage, ouais. Quitté le navire à la nage. Mon esprit dérive vers le large. J'ai quitté le navire à la nage. Mon esprit dérive vers le large. J'ai quitté le navire à la nage.
Pendant plus d'un an, l'expression métro boulot dodo, ou plutôt boulot vélo dodo, car This is Grenoble, n'aura jamais été aussi vrai. Avec les confinements, le travail a pris une place centrale dans la vie de ceux et celles qui vendent leur force de travail. Le temps dédié à d'autres activités s'est réduit avant d'être englouti par les restrictions mises en place. Si la crise du coronavirus a accentué ce phénomène, ce dernier n'est pas pour autant nouveau, au contraire. Je vais montrer dans cette chronique comment le travail a acquéri le statut de valeur centrale dans nos sociétés occidentales et capitalistes. Une valeur qui n'est pas à la hauteur de ces discours. Car, je vous l'explique plus loin, l'évolution des formes de travail au cours du XXe siècle a vidé de son sens certains emplois et instauré une violence symbolique et morale à l'encontre des travailleuses et particulièrement des salariés.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume.
Dans un article de 2019, au sein de l'ouvrage « Manuel indocile des sciences sociales », la sociologue Anne-Marie Dujarrier revient sur cette entité qu'est le travail. C'est au cours de la révolution politique et économique de la fin du XVIIIe siècle que le travail acquiert son sens actuel. Aujourd'hui, nous explique Anne-Marie Dujarrier, le mot « travail » a trois sens. Il désigne aussi bien le processus de transformation que la production, donc les biens matériels ou les services, et l'emploi. L'emploi, nous dit Dujarrier, c'est la marchandise échangée sur le marché du travail. C'est la force de travail des individus. L'emploi s'est massivement développé à travers le salariat, qui devient petit à petit la solution la plus répandue pour subsister au cours du XXe siècle. Dujarrier écrit « Chacun doit alors se faire employer dans des fermes, manufactures, des usines, puis des bureaux et autres lieux dits de travail. » Le travail est associé à un temps et à un lieu à part, une pratique sociale désencastrée du reste de l'existence, notamment lorsque l'activité est salariée. Peu à peu, donc, les sociétés occidentales ont assimilé l'emploi au travail. Nos sociétés se fondent donc sur ce concept du travail, à tel point que ce dernier a été érigé en tant que valeur morale, nous dit Dujarrier. Il faut travailler pour mériter de vivre, quitte à tout accepter. Et ceux qui ne travaillent pas sont soit coupables ou victimes.
Moi, je suis articole et j'ai envoyé partout dans les mairies, plein de temps.
Mais si vous êtes prêt, si vous êtes prêt et motivé, viens. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je ne dis pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier.
Oui, ouais.
Cette valeur travail, elle est englobante et ancrée en chacun de nous. Peu de personnes peuvent affirmer que le travail n'est pas central dans leur vie, surtout quand ce dernier représente 35 heures ou plus dans leur semaine. La société nous le rabâche constamment. Pour être dans la norme, il faut travailler. Pourtant, des emplois, il n'y en a pas pour tout le monde. La France comptait 2,7 millions de chômeurs à la fin 2020, selon une enquête INSEE publiée le 10 novembre 2020. Et s'il faut travailler, à quel prix ? Parmi tous les emplois disponibles, on trouve ceux qui sont précaires, mais aussi des jobs à la con qui servent à rien. Alors vous pensez que j'y vais un peu fort avec cette appellation de job à la con. Pourtant, elle existe bel et bien. Elle a été théorisée et rendue célèbre par David Graeber, anthropologue et militant états-unien, dans son livre « Bullshit Job ». Il les définit comme des formes d'emploi rémunérées qui sont inutiles, superflues ou néfastes et que même le salarié ne parvient pas à justifier l'existence. Le livre « Bullshit Job » repose sur de nombreux témoignages.
Exemple avec le témoignage de Judy. Je le disais dans votre livre, David Graeber, de nombreux témoignages récoltés. Judy vous écrit « Le seul job à plein temps que j'ai jamais eu était inutile de bout en bout. C'était dans une boîte d'ingénieurs privés aux ressources humaines. Je me trouvais là que parce que le grand chef des RH était une feignasse qui ne décollait jamais les fesses de son fauteuil. J'étais assistante RH. Mon boulot me prenait, c'est pas des conneries, hein, une heure et demie par jour à tout casser. Le reste, 7 heures et des poussières, je le passais à jouer au 2048 ou à regarder YouTube. Les téléphones ne sonnaient jamais, il me fallait pas plus de 5 minutes pour rentrer des données dans l'ordi, j'étais payée à m'emmerder. Mon patron aurait facilement pu faire mon boulot, mais je vous dis, c'était un sale con fainéant.
Si les témoignages du livre peuvent prêter à rire, il ne faut pas oublier que les emplois dont on parle sont nuisibles et qu'ils incarnent une violence symbolique, autant pour la société que pour les individus confrontés au non-sens de leur activité. Et si on arrivait à enlever les emplois précaires et les jobs à la con, il resterait toujours les nouvelles formes managériales qui pèsent sur les emplois. Ces dernières ont mis en place ce que la sociologue Danielle Linhart a appelé la révolution humaniste du travail.
Pour enquêter sur les nouvelles méthodes de management des entreprises, j'ai réussi à me faire embaucher comme salarié d'une toute jeune start-up, Youpi, dirigée par un jeune PDG connu pour son caractère extraverti.
Vous êtes les meilleurs.
Excellent lundi à tous! Attendez!
C'est l'heure de la danse de la joie.
Cette idéologie qui a été mise en place par les RH et les managers, elle repose sur deux choses. La première, c'est l'individualisation des salariés et leur engagement envers l'entreprise. C'est-à-dire que tout salarié doit toujours se dépasser, car il est en concurrence avec les autres, mais surtout lui-même. En contrepartie de cet investissement, l'entreprise va récompenser son salarié, que ce soit à travers des cours de sport, des massages ou des services en tout genre. Rien n'est trop bon pour le ou la salarié, du moment que lui ou elle ne compte pas ses heures au sein de l'entreprise. La deuxième idée sur laquelle repose la révolution humaniste du travail, c'est une réorganisation qui est constante. Que ce soit les tâches, les services ou l'adaptabilité de chacun, tout est en constante évolution. Ce changement permanent, il vise à désamorcer les critiques qui pourraient être formulées à l'égard du management, nous dit la sociologue Danielle Linhart. Il n'y a pas de critique à formuler sur les pratiques parce qu'elles sont déjà obsolètes. Au final, cette révolution, elle mène au développement du stress chez les salariés et à des risques psychosociaux, soit des drogues, des suicides, en dépit de ce qu'en disent les managers et les autres chief happiness.
On est toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 avec Déjanré, l'émission féministe pour déranger.
On continue l'émission avec une interview de Clo qui nous parle de son projet BD sur les imaginaires sans travail.
Salut! Alors je commence directement par deux citations qui seront certainement dans la bande dessinée. J'ai beaucoup de mal à imaginer le fait qu'on puisse arrêter de travailler, parce qu'en fait c'est ancré dans mon éducation. Moi je suis issue d'une famille d'ouvriers où le travail c'est une valeur, aussi importante que le bien et le mal. Où on se définit par le travail, pas forcément par celui qu'on fait, mais par le fait de se lever le matin, de montrer à nos enfants que ce qu'on a, on l'a acquis par la force de notre travail. Et ces valeurs-là, bah, je les ai aussi inculquées à mes enfants. Du coup, m'imaginer une société où on n'est pas obligé de travailler, ça voudrait dire qu'on se définit autrement que par le travail, et ça pose beaucoup de questions. J'ai vu mes parents se métamorphoser à la retraite. Quand ils travaillaient, tout allait mal, ils étaient toujours énervés. Et ensuite, ils ont retrouvé le sourire et fait plein de choses qui leur plaisaient. Là, moi, j'avais environ 30 ans, je bossais, et je me suis dit « Merde, je vais quand même pas attendre d'être à la retraite pour aller bien. » Voilà, alors là, je vous parle d'une bande dessinée où il sera question d'imaginaire sans travail. Ce que je mets derrière le mot « travailler » ici, c'est le fait d'avoir une activité rémunérée. Je vais dire souvent « nous » et « on », dans lesquels j'englobe la plupart des humains dans ce monde capitaliste. J'ai commencé par dire que ces citations seront certainement dans la BD parce que cette BD n'est pas du tout terminée. Peut-être même qu'elle ne le sera jamais et que vous ne pourrez donc pas les lire. Suspense. Mais j'espère bien qu'on va y arriver. On l'a fait à deux, avec mon frère, qui est un maxi hétéro blanc. Lui, il fait les dessins et tout ce qui va avec. Et moi, meuf cis hétéra blanche valide, je fais le texte. On a tous les deux eu accès à des études supérieures et aujourd'hui on ne travaille pas, ni l'un ni l'autre. Moi par choix, et lui plus ou moins. La remise en cause d'aller travailler, ça fait un moment que je suis dessus. C'est un sujet qui m'obsède pas mal. Alors j'en parle souvent avec des gens, j'ai lu plein de trucs là-dessus, et je cherche encore comment faire pour qu'on puisse être plein à pouvoir en sortir. Moi j'ai arrêté petit à petit. J'ai fait des études assez longues, et puis j'ai travaillé longtemps en école de musique. J'ai donné de moins en moins d'heures de cours, et maintenant j'ai complètement arrêté, depuis 2 ans. Et je trouve ça super. Là, j'écris des chansons, dont la moitié parle du fait d'arrêter de travailler, individuellement et collectivement. Et à un moment, je me suis dit que le format chanson ne me suffisait pas pour développer certaines choses, et j'ai pensé au format BD, qui peut être une forme plus longue, avec un support attrayant même pour des personnes qui ne lisent pas beaucoup. Alors j'ai demandé à mon frère s'il voulait bien faire ça avec moi et il a dit oui. J'ai commencé par faire des interviews avec des meufs Gwyn Trans de mon entourage pour aller chercher des idées et des témoignages. Pour l'instant, j'en ai fait une quinzaine, ça fait environ 3 ans que j'ai commencé, et je pense en faire encore quelques-unes. Ce que je cherche à travers ces interviews, c'est des imaginaires, inventés ou vécus, qui puissent nous permettre de voir que le travail n'est pas une fatalité, qu'on peut s'organiser autrement. Parce que je pense qu'une des raisons principales pour lesquelles on est coincé dans ce système, c'est qu'on n'imagine pas pouvoir faire autrement. Et c'est ça que je veux montrer, qu'on peut faire autrement. Avec l'espoir un peu fou que la lecture de cette BD permette à des personnes d'arrêter de travailler. Il y a plein de choses encore assez floues dans comment sera cette BD, mais voici des exemples de points que je veux développer. Alors, la possibilité de ne rien faire. Et aussi, ne rien faire pour chercher ce qu'on veut faire. Il y aura les questions de consommation, production, éducation, santé, etc., qui seront plus ou moins développées. Il y aura des focus sur des individus, des collectifs de vie, des collectifs d'activités, sortis de l'activité salariée. Leur parcours, leur fonctionnement, leur questionnement, etc. Et les questions de pourquoi on va encore au travail. Quelles sont les peurs? Qui peut arrêter de le faire aujourd'hui? Quels ont été les déclics pour certaines de passer le cap? Voilà, pour l'instant, j'ai plein de bouts de témoignages que je veux faire apparaître et quelques autres à aller chercher. Le tout n'est pas encore bien organisé, ça risque de durer encore longtemps à écrire et à dessiner. J'aimerais que cette BD soit terminée d'ici 2 ans, par exemple, mais comme j'aime bien faire la grasse mat et passer du temps à lire des romans, ce sera peut-être un peu plus long. Si on y arrive, ça me donne envie qu'elle soit lue, et donc diffusée. Si c'est possible de passer par une maison d'édition, je préfère, parce que ça m'éviterait de faire le boulot de diffusion. Et si aucune maison d'édition n'en veut, ce sera en autopublication, autodiffusée. Voilà, je vais terminer par une autre citation qui sera dans la BD, d'une personne qui a arrêté de travailler. Souvent, les gens parlent des rêves de jeunesse qu'ils n'ont pas pu accomplir, et ils regrettent. Moi, c'est le contraire. Mes rêves étaient tout pourris, pas très larges, et maintenant je vis beaucoup plus. Bah voilà, ce que je peux raconter sur cette bande dessinée à venir. Salut, à plus!
J'attendais dans l'auto, j'y allais pile à et demi. Ne pas être là trop tôt et subir ses flatteries. Éviter de le croiser, ne pas le regarder. Terminer la semaine et craindre les prochaines. Je me souviens encore de ce dégueu patron à qui tous mes efforts rapportaient du pognon. J'avais jamais pensé que j'étais pas obligée. On m'avait dit le travail, il faut que tu y ailles. Pour que ça fasse un temps plein, j'avais un autre boulot. Avec tout plein de gamins, on jouait du flutio. Mais ce demi-salaire, moi qui ne suis pas entière, me semblait bien léger pour payer mon loyer. Je me mis à rêver de si j'avais du temps, plutôt que de travailler pour gagner cet argent. Si au lieu d'y aller, je restais là à flâner, cherchant de quelle manière rendre belle ma colère. Je me souviens encore de ce dégueu patron à qui tous mes efforts rapportaient du pognon. J'avais jamais pensé que j'étais pas obligée. On m'avait dit le travail, il faut que tu y ailles. Puis ça devint si fort, cette envie si pressante. Ma vie, même à mon corps, méritait que je l'attende. Alors je l'ai quitté, ce fâcheux CDD. Ce confort qui malmène, ce quotidien de peine. c'est assez cocasse et aussi renforçant d'apprendre avec audace à contourner l'argent. Avec quelques astuces, je peux vivre bien plus. Et puis surtout des gens pour partager les plans. Je me souviens encore de ce dégueu patron à qui tous mes efforts rapportaient du pognon. J'avais jamais pensé que j'étais pas obligée. On m'avait dit le travail, il faut que tu y ailles.
Et on vient d'écouter le morceau de Combine Lervin qui s'appelle « Il faut que tu y ailles ». Alors moi je vais vous parler d'un livre de Maud Simonet qui est sorti en 2018 chez Textuel et dont j'ai vraiment apprécié la lecture. C'est une sociologue féministe qui parle du travail et c'est une lecture qui est accessible, assez courte, avec plein d'exemples. Alors on vous la recommande. Il s'appelle « Travail gratuit, une nouvelle exploitation ». À cette question, elle répond dans le premier chapitre que pas tant que ça, et évoque ce que les penseuses féministes ont apporté au débat dans leur recherche sur le travail domestique. Dans un premier temps, elle parle de la difficulté de qualifier le travail de reproduction. Qu'est-ce qui rentre ou pas dedans? Comment le rendre visible? Les études sur ce sujet ont eu un véritable écho lorsque les heures passées au travail domestique ont été converties en argent, en pourcentage du PIB, qui ne sera pas le même en fonction des définitions employées. Et vient alors une autre question, car prendre comme référence le prix du marché revient à cautionner que les tâches dites féminines sont moins payées en général et différemment en fonction des statuts sociaux. Et puis, elle parle de l'apport des féministes matérialistes en citant Federici et Delphi et pose la question de qui s'accapare le travail gratuit, le capitalisme ou la classe des hommes. Dans un dernier temps, elle en vient à parler des différents rapports à la domesticité en fonction de sa classe et de sa race. Pour cela, elle utilise les propos de Bell Hooks qui définit le travail d'éducation et de reproduction comme un espace de réhumanisation, d'apprentissage à prendre soin de soi et des autres dans un monde raciste et démontre donc que le rapport au chez-soi n'est pas le même en fonction de qui on est. Dans le deuxième chapitre, on sort de l'espace familial pour rejoindre l'espace public. Elle y enquête sur les liens entre travail gratuit et État en croisant les recherches entre les États-Unis et la France. Aux États-Unis, elle prend comme terrain le nettoyage des parcs de New York. De nombreuses initiatives ont vu le jour au fur et à mesure que les budgets de la ville s'amenuisaient. Des associations bénévoles aux bénéficiaires des allocations, contraints de donner leur temps, tout ceci se retrouve sous la même étiquette citoyenne. La bourgeoise blanche qui habite dans le quartier et la jeune femme racisée qui espère que ses heures aboutiront sur un emploi. Bien évidemment, ces deux personnes ne font pas les mêmes tâches et n'ont pas le droit au même respect. Et cela se passe aussi en France, notamment avec la mise au travail des personnes migrantes. L'autrice y décrit le rôle clé des États dans la promotion du travail gratuit dans de nombreuses sphères de la société, notamment les services publics. Elle s'interroge sur comment a-t-on pu passer de l'interdiction du bénévolat pour les chômeurs qui nuirait à la recherche de l'emploi à l'incitation au bénévolat des allocataires du RSA en 20 ans. Pour elle, l'État français, en mettant en place des contrats du type service civique ou des mesures comme la validation d'acquis, le poste de gestion des ressources humaines bénévoles dans les grosses associations depuis 2020, le passeport bénévole ou encore la possibilité de crédit à la formation pour les bénévoles. Et encourage ainsi donc la constitution de classes de travailleurs sans droit ou avec peu au nom du bien commun. Le troisième chapitre concerne le « digital labor ». Elle commence par faire le tour des différentes auteurs-autrices qui étudient la question et les termes qu'ils, elles, emploient. Les pratiques sur Internet sont nombreuses. Contribution à Wikipédia, Recatch ou Désigne tous les palmiers, accaparement des données, ont mis sous les projecteurs la question du travail gratuit. D'ailleurs, est-ce qu'en écrivant cette chronique, je ne travaille pas gratuitement pour une maison d'édition ? Elle y interroge donc, dans cette partie du livre, le lien entre exploitation et aliénation. Est-elle plus forte ou plus faible dans le digital labor, etc. Elle y définit l'exploitation comme l'existence d'un écart entre l'intention de l'individu et les fruits de son action, ce qui vaut dans toute forme de travail non rémunéré. Pour elle, l'enjeu est celui de qui s'accapare les richesses produites. Elle va pour cela étudier, comme exemple, la grève au Huffington Post. Alors, pour resituer, le Huffington Post est créé en 2005 et est devenu un modèle du journalisme contributif. En effet, 80% des articles sont réalisés par des bénévoles. En 2011, il est vendu pour 315 millions d'euros. Un appel à la grève des contributeurs non payés, non syndiqués, non employés du Huffington Post est lancé, soutenu par le Syndicat national des auteurs des États-Unis. Elle analyse ce conflit sous les termes de guerre des valeurs. Je vous lis un extrait. Ce que les blogueuses mobilisées vont reprocher aux dirigeants du Huffington Post, ce n'est pas tant d'avoir fait du profit que d'en avoir fait beaucoup sans le partager. S'il n'y avait pas d'argent, ok, très bien, ne nous donnez pas d'argent. Mais s'il y en a beaucoup, pourquoi ne partager un petit peu ? Me dira ainsi le second avocat que j'ai interviewé. Dans les entretiens comme dans les déclarations à la presse ou même les comptes rendus du procès, on saisit bien comment la valeur qui est en jeu ici est loin d'être simplement économique. Il aurait suffi d'un geste, qu'elle envoie quelques dollars au moment de la vente à tous les contributeurs. La redéfinition de leur contribution volontaire en travail gratuit est donc avant tout pour les blogueuses la redéfinition de la nature du journal, que nombre d'entre eux voyaient comme porteur d'une cause, et que sans doute certaines assimilaient de facto, plus ou moins consciemment, à une entreprise sans but lucratif. C'est aussi la requalification en employeuse de travail gratuit de celle qui était devenue une icône politique médiatique démocrate. La flaire des blogueuses de Huffington Post a tous des marqueurs objectifs de l'exploitation capitaliste, à commencer par le profit. Du point de vue des travailleurs, c'est bien plus qu'un surtravail qui leur est extorqué. C'est leur travail tout entier et avec lui leur capacité à définir ce qu'il est et pour qui il va. En terminant ce chapitre, elle cite l'irritation de Kelly Jarrett, sociologue, autour de la médiatisation des questions du travail gratuit sur Internet. À lire la plupart des travaux actuels sur le digital labor, même les plus solides d'entre eux, on a le sentiment que l'exploitation du travail immatériel n'a été inventée, entre guillemets, que quand elle est sortie de la cuisine pour débarquer sur Internet. C'est-à-dire quand elle a commencé à concerner des hommes blancs de classe moyenne, cis, hétéro et valide. Alors les deux derniers chapitres, qui sont les plus courts, sont son hypothèse politique. Et du coup, je vous en lis le début et pour la suite, n'hésitez pas à lire ce livre. Et maintenant, que faire ? Comment sortir de ce régime de la preuve par le travail gratuit ? Comment sortir de ces formes de domination plus ou moins douces qui font que le travail non rémunéré en vient à mesurer notre valeur de mère et d'épouse et de citoyenne, d'artiste, au même moment où son appropriation par autrui nous en dépossède ? Précisons d'emblée que la réponse à cette question dépasse largement le format et l'ambition de cet ouvrage. L'exemple du travail domestique nous rappelle surtout combien elle est loin d'être évidente. Il y a sans doute plusieurs leçons à tirer des tentatives de politisation du travail domestique, mais la principale, c'est que sortir le travail gratuit de son invisibilité, le donner à voir, ne suffit pas. En 40 ans, on l'a vu, les chiffres de la répartition du travail domestique se sont très peu modifiés. Certes, les choses progressent, dans les représentations et les discours tout au moins, mais elles progressent lentement. Et rien ne permet d'ailleurs d'affirmer avec certitude que la mise en lumière du travail domestique soit responsable de cette progression. Et puis, cette progression ne touche pas toutes les femmes de la même manière et elle mérite aussi à ce titre d'être interrogée, voire interpellée. En 40 ans, les écarts entre les femmes se sont creusés et ils se sont en quelque sorte globalisés, comme le dépeignait avec force de nombreux travaux sur la nouvelle division internationale du travail. Celle-ci impose aujourd'hui aux femmes des pays du Sud de réaliser une partie croissante du travail reproductif payé ou non payé des pays du Nord. Pour le dire vite, la visibilisation du travail domestique des femmes n'a pas saulé le glas de son assignation, pas plus que de sa délégation. Qu'elle s'opère de gré ou de force n'a pas libéré les femmes de celui-ci et elle a même creusé les écarts entre elles. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de lire le livre.
Moi, ça m'a donné envie de le lire en tout cas. Merci Alice pour cette chronique. Vous êtes toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 avec Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
Et du coup, moi je voudrais vous présenter une tribune sur le travail domestique que j'ai trouvée en ligne, qui a été publiée en juin 2020. Et du coup, je vais vous lire le texte. Le confinement imposé par l'épidémie Covid-19 braque soudain les projecteurs sur un lieu de travail longtemps ignoré, le domicile. Or, ce dernier a toujours été un lieu de travail, tant pour des artistes et des artisans, que pour les travailleuses domestiques, nounous, assistantes de vie, femmes du ménage. Et avec l'ubiquité des moyens de communication pour tous les cadres et employés, dont les smartphones est devenu le bureau principal. Cette crise offre l'occasion de se poser les bonnes questions sur l'espace de travail, l'ergonomie, la sécurité, le management, en cessant de fermer les yeux sur cet espace aussi important que le bureau ou l'usine. En 2015, plusieurs années avant l'immense succès des sorcières, l'auteur Mona Chollet publia un livre intitulé « Chez soi ». Une odyssée de l'espace domestique, un essai passionnant qui explore les difficultés que l'on trouve à profiter de son « chez soi » dans l'état de famine temporelle qui caractérise les modernes que nous sommes. « Chez soi » mêle les sujets intimes et collectifs pour proposer une analyse sociologique et psychologique de la sphère domestique. Avec le confinement imposé par la crise Covid-19, ces sujets sont devenus d'une grande actualité. C'est pour cela que, depuis 2 semaines, le livre de Mona Chollet est en tête des ventes d'essais en France. Il a été commandé en ligne par de nombreux lecteurs-lectrices confinés. La sphère domestique fait rarement l'objet d'analyses concernant le travail, mais le confinement impose le télétravail à la maison, aux télétravailleuses, aux travailleuses des bureaux, et braque ainsi les projecteurs sur cet espace qui a toujours joué un rôle économique essentiel. Les révolutions industrielles britanniques de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle ont brutalement séparé les sphères marchandes et non marchandes en retirant la majeure partie de la production marchande de l'espace domestique. Par exemple, alors que la production textile, le filage, le tissage et la fabrication des vêtements se faisaient autrefois largement à domicile, les nouvelles technologies du XVIIIe siècle, notamment la mule-génie, une machine à filer à énergie hydraulique inventée en 1779, déplace cette production dans les usines et la concentre dans des espaces définis pour une production industrielle plus intensive. Peu à peu, l'organisation artisanale de la production qui reposait en partie sur l'espace domestique est remplacée par l'organisation industrielle hors de sa maison. Les femmes se voient assignées à résidence et on leur confie un travail non marchand, non mesuré et non rémunéré. Hors du foyer, le travail est dit productif, tandis que dans le foyer, il est qualifié de reproductif et est subordonné au premier, et non valorisé du coup. Ce travail non marchand et invisible, effectué à domicile, se transforme largement au cours du XXe siècle, parce que les femmes rejoignent massivement la sphère marchande et occupent désormais des emplois rémunérés. Les tâches domestiques sont en partie externalisées, hors de la maison. Par exemple, on consomme de plus en plus des plats industriels préparés, des usines, plutôt qu'à domicile. Les enfants sont gardés dans des crèches plutôt qu'à la maison. Les cheveux sont coupés chez le coiffeur, etc. Après la révolution industrielle, nous avons construit un imaginaire autour du travail marchand qui n'inclut jamais l'espace domestique. Le travail en vrai, c'est au champ, à l'usine, sur un chantier ou au bureau qui se fait, pas à la maison. Pourtant, en réalité, la maison est toujours restée un lieu de travail essentiel. On y travaille chez soi, mais on travaille aussi au domicile des autres. Non seulement le travail marchand dépend de ce qui se passe à la maison, mais il existe de nombreux travailleurs invisibles pour qui le domicile, chez soi ou chez les autres, est le principal lieu de travail. Il ne s'agit pas seulement d'une frange marginale d'artistes ou d'artisans qui ont leurs ateliers à domicile, mais surtout de millions de travailleurs et travailleuses domestiques qui gardent les enfants des autres, font le ménage, s'occupent des personnes âgées ou délivrent des soins au domicile de leurs clients. Or, ces travailleurs et travailleuses invisibles, dont plus de 80% sont des femmes, ont le plus souvent des conditions de travail dégradées, ne bénéficient pas de la même protection sociale, sont plus souvent exploitées, font des horaires à rallonge pour les rémunérations les plus faibles. Les nounous, assistantes de vie à domicile et femmes de ménage sont souvent des personnes dont les conditions de travail ne sont pas perçues par les autorités comme une priorité politique. La condition des travailleuses domestiques est plus misérable que celle de tout autre groupe de travailleurs et de travailleuses dans le système capitaliste, a dit un jour la militante américaine Angela Davis. Quant au bureau, il a longtemps été pensé comme l'usine autour d'une séparation stricte entre ceux qui relèvent du domestique et ceux qui relèvent du professionnel. Mais avec Internet et l'ubiquité des moyens de communication, la maison est redevenue, pour de plus en plus de travailleurs-travailleuses, un espace de production à part entière. Depuis quelques années, l'espace domestique devient, avec la montée du télétravail, un espace de travail parmi d'autres dans un contexte où le bureau devient plus éclaté. Avec la crise sanitaire que nous traversons, la maison remplace le bureau. Or, ce confinement imposé offre l'occasion d'appréhender l'espace domestique comme un espace de travail à part entière. C'est une opportunité à saisir pour au moins 5 raisons. De nombreuses travailleuses domestiques, comme les nounous ou les femmes de ménage, sont aujourd'hui sans travail à cause de la crise sanitaire. C'est l'occasion de mettre sur la table la question de leur protection sociale et de la reconnaissance de leur travail. Pour beaucoup de travailleurs-travailleuses, le travail à domicile ne fait l'objet d'aucune réflexion sur les conditions de sécurité et de confort. Les questions ergonomiques doivent se poser aussi dans le cadre domestique. L'employeur a un rôle à jouer dans l'aménagement du poste de travail domestique. Après la crise, c'est l'occasion d'élargir le champ de la médecine du travail, de l'inspection du travail et de la question de l'aménagement de l'espace du travail. L'imbrication entre le travail marchand et non marchand devrait toujours être un sujet fondamental pour les ressources humaines, tant il affecte profondément le bien-être et la productivité. Pourtant, c'est souvent un tabou. On ne parle guère de ses responsabilités parentales au travail, ni des tâches ménagères. Or, les employeurs ont tout intérêt à prendre en compte ses responsabilités et ses tâches. La flexibilité par défaut, par exemple, est un élément de réponse. Pour les emplois de bureau, le télétravail par défaut pourrait bien devenir la norme. Avant la crise, les entreprises sans bureau étaient minoritaires, GitHub, Buffer, Basecamp ou Automatique et marginales. Demain se pose la question « Ai-je vraiment besoin d'un bureau ?» se posera à tous et à toutes. Cela ne veut pas dire qu'on ne se verra plus en vrai, mais que le bureau pourrait bien devenir de plus en plus un coût variable, quelque chose que l'on dépense ponctuellement lorsqu'on a besoin d'un lieu pour se réunir. Cela présente une opportunité indéniable pour les nouveaux entrants sur le marché. Sans bureau, on peut lancer une entreprise beaucoup plus facilement et à moindre coût. C'est l'occasion de mettre sur la table les questions de sécurité liées au travail à domicile. La maison est hélas aussi un lieu de violence. Le confinement s'est accompagné d'une recrudescence des violences conjugales. Or, l'entreprise a un rôle à jouer pour assurer la sécurité de ses employés. La mise en place des nouvelles protections juridiques et psychologiques est souhaitable. La maison a toujours été un espace de production et un lieu hybride. La crise que nous traversons est l'occasion pour les entreprises comme pour les pouvoirs publics de braquer les projecteurs sur le travail domestique dans toutes ses dimensions, soins, ménage, travail intellectuel, coordination entre travail marchand et non marchand, pour améliorer la sécurité et le bien-être de tous les travailleurs, travailleuses concernés.
On l'a dit à la grand-mère, qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère à son gamin qui tête folle n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école, à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus. Clémence, comment en enfance, Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances.
feu. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance. Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage. Je dois tout faire à la maison. La cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Clémence, Clémence a pris des vacances. Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, comment en enfance. Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire, le plus fort n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en ait aucun remords.
C'est pour ça que j'ai quitté mon travail. En fait, pourquoi est-ce qu'il y avait un sens dans mon travail? C'est pour ça que j'ai quitté mon travail. Il n'y avait aucun sens. Je vendais de l'alcool, du tabac et déjà gratté tout ce qui était addictif. Et je voyais vraiment la misère humaine. Du coup, ça motivait pas le matin, tout simplement.
Est-ce que je travaille? Oui. Eh ben, ça a fait un peu l'objet de mon questionnement aussi pendant ma phase de chômage. Je crois que j'ai besoin de nourriture et de projets à long terme. Et du coup, ça vient vraiment remplir ce besoin-là chez moi. Est-ce que mon travail a un sens? Oui. En tout cas, pour moi, il l'est. Enfin, je travaillais avant sur l'environnement et maintenant sur la question des mobilités. Et j'aime bien que ça s'inscrive sur des grandes questions sociétales actuelles. Après, j'ai conscience que je vais pas changer le monde et que je fais une toute petite part de mon côté, un tout petit truc. Ça me satisfait beaucoup. Ouais, ça m'amène beaucoup de satisfaction.
Je travaille dans l'école maternelle. Je ne sais pas parce que c'est nécessaire pour la vie. Mais je suis contente parce que je vais faire un travail que j'aime. Oui, je pense que ça me calme. Ça me calme. C'est les enfants qui me calment, pas les autres sujets au travail.
Pourquoi est-ce que je travaille? Bah moi j'ai un travail un peu particulier. Enfin en tout cas je travaille parce que j'ai envie de faire ce que je fais. C'est un travail parce que c'est une manière aussi de pouvoir en vivre quoi. Alors si mon travail a un sens, oui pour moi mon travail a un sens ouais. Mais c'est particulier parce que c'est moi qui l'ai créé. Je suis pas vraiment dans un cadre de salariat. Est-ce que je mets un sens dans mon travail? Oui je pense que je mets beaucoup de sens dans mon travail et certainement des fois un peu trop.
Est-ce que je travaille? Non, je travaille pas. Je suis étudiante au lycée. Du coup, pour mon futur travail, je pense que principalement, il faut travailler pour le plaisir. Sinon, il n'y a pas de sens à notre vie. Enfin, dans un contexte capitaliste, je pense que c'est pas possible. Parce que y a des populations qui sont exploitées. On exploite, par exemple, les femmes sur les différences les différences de salaire, etc. Donc, non, je pense que pour ça, il va falloir bouger et il va falloir supprimer ça pour un futur meilleur.
Je suis militante et je pense que déjà je passe beaucoup de temps dans le militantisme. Je suis là justement pour aider mes, comment on dirait, dans certaines assos, mes sœurs. Donc du coup oui, j'espère aider certains et voilà. Quel sens je mets? La solidarité déjà envers mes collègues, parce que la solidarité pour les conditions de travail, pour changer du coup le système aussi dans le travail, parce que le système dans la société c'est pas tout. Il y a aussi la démocratie à emmener dans le monde du travail, chose qu'on n'a pas pour l'instant puisqu'elle s'arrête à la porte de l'entreprise. Donc ça aussi. Rappeler quand même que du coup les femmes ne sont toujours pas à l'égal de l'homme pour les salaires. Rajouter aussi quand même que les premières de corvée c'était quand même beaucoup de femmes et qu'on les a un petit peu oubliées et qu'il ne faut pas les oublier. Voilà. Qu'on est toujours là, qu'on est toujours présente aussi dans les luttes. Et voilà.
Je travaille parce que j'ai besoin d'argent pour vivre, pouvoir pas avoir des trous dans mon CV qui peuvent m'empêcher de trouver du travail pour avoir des thunes plus tard. Certes, mon travail c'est quelque chose qui à la base m'intéresse comme activité, c'est quelque chose que je fais aussi dans mon temps libre et il y a des personnes qui pourraient dire que ça c'est un peu, je sais pas moi, le bonheur, mais en fait moi je trouve que le moment où on doit faire quelque chose pour vivre dans un cadre salarié où on est forcé d'être là, et si on produit pas les choses qu'on doit produire, bah alors on va soit être viré, soit avoir des difficultés administratives, bah là ça perd tout plaisir pour moi, même si c'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Alors, est-ce que je mets un sens dans mon travail? Bah, je dois, pour pouvoir y aller tous les jours, pour pouvoir le faire bien et pour pouvoir me dire que les choses que les autres personnes trouvent urgentes doivent aussi être urgentes pour moi. Et je pense que si je pouvais vivre sans avoir besoin de travailler pour avoir un salaire pour pouvoir vivre, je pourrais mettre mes capacités et faire presque la même chose, mais pour des raisons beaucoup plus importantes et beaucoup plus urgentes, on pourrait dire, que ce que je fais en ce moment. Mais je peux pas, parce que si je fais ce qui est urgent et ce qui fait sens, je vais pas avoir assez d'argent pour vivre.
Dans aucun taf actuel, c'est-à-dire que je vais faire des études pour le plaisir dans, genre, dans les sciences sociales, etc. Mais après, je me vois pas travailler en fait, parce que il me faudrait un métier qui ait du sens. Mais vu que je considère que la société n'est pas stable et que je suis collapsologue, du coup je crois en l'effondrement de notre société, donc je suis pas hyper sûre de travailler. Mais sinon, j'aimerais travailler dans un métier pour l'alimentation, genre l'agriculture ou des trucs comme ça. Mais ce serait pas par plaisir, c'est juste histoire d'être indépendante. Je pense que le travail a énormément de sens. Je pense que c'est si tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce au travail. Du coup, ça, pour moi, ça fait énormément de sens. Mais par contre, tous les métiers qu'on a créés autour de notre société, les trucs de spéculation boursière, il y a vraiment un problème dans la société, et même les métiers de bureau. Enfin, je trouve qu'on s'écarte de plus en plus des vraies choses. Enfin, après, ça fait un peu puriste de dire ça, mais oui, pour moi, le travail a énormément de sens, et il faut l'encourager. Et c'est pas que à la droite de dire ouais, le travail c'est important, parce que la gauche, je pense aussi.
On est toujours sur Radio Campus Grenoble 90.8 avec Dégenrer, l'émission féministe pour déranger.
Nous venons d'écouter Clémence d'Anne Sylvestre, suivie de la deuxième partie du micro-trottoir sur le travail enregistré à l'occasion de la manifestation qui a eu lieu le 1er mai à Grenoble. Maintenant, nous allons aborder la question d'un autre travail non rémunéré, le travail syndical. Ernest a donné la parole à Karen, syndicaliste.
Je suis Karen, je fais partie du syndicat CGT à la Sécurité sociale.
Et alors, tu fais du travail syndical, ça consiste en quoi ?
Alors, la vision du travail syndical que j'ai, c'est d'aller d'abord voir les salariés, savoir comment est-ce qu'ils sont dans leur travail. Est-ce que ce qu'on leur demande de faire et ce qu'ils font, ça correspond ? Est-ce que, surtout aujourd'hui avec la crise sanitaire et le télétravail, est-ce qu'ils sont bien dans leur activité ? Alors là, avec justement le télétravail, c'est très compliqué. Et sinon, on est contraint de lire les documents que nous envoie la direction pour aller à ces réunions réjouissantes que sont les CSE.
Et ça, c'est beaucoup de documents ?
Ouais, c'est quand même pas mal de documents. On a des documents qui font 60 pages et on en a une douzaine, quoi. Donc ouais, c'est lourd, mais c'est pas pour nous, c'est pas ça le travail syndical. C'est vraiment d'aller voir les salariés et de savoir comment est-ce qu'ils sont dans ce qu'on leur demande de faire.
Dans ce cadre de travail syndical, il y a des heures qui sont prévues pour ça ?
Alors, du fait des élections qu'on a eues, des résultats aux élections, on a des heures allouées par l'employeur. Donc oui, on a du temps payé en tant que travail, mais pour faire le travail syndical.
Et ça représente beaucoup ?
Alors, dans mon cas, c'est 2 jours et demi de syndicat. Après, selon moi, ma vision, c'est important d'être toujours dans l'activité professionnelle pour pouvoir défendre au mieux les salariés. Après, c'est pas simple à faire parce qu'on est peu et qu'on est pas mal sollicité. Mais moi, j'estime que pour pouvoir bien défendre les salariés, il faut être dans l'activité.
Et est-ce que t'as l'impression de faire des heures sup pour le syndicat ?
Oui. Enfin, ouais, on est obligé de faire des heures sup. On fait plus de temps hors travail que ouais, tu comptes pas les samedis, dimanches, les soirées, non, c'est oui, ça prend pas mal de temps.
Et parfois on parle de la double journée de travail quand on enchaîne son travail salarié et le travail domestique à la maison. Est-ce qu'avec le travail syndical, t'as l'impression de faire une triple journée de travail ?
Ah oui, ça c'est clair. Tu fais ta journée de travail dans ton boulot, tu cumules ta journée du syndicat, après tu t'occupes des gosses et de la popote, et après bah, tu retournes faire ton travail syndical, répondre aux sollicitations que t'as, ou lire les documents qui te sont envoyés, et puis voir un peu ce qui se passe au niveau national et local.
Et est-ce que t'as l'impression que les gars syndiqués, ils ont les mêmes problématiques ou moins ?
Bah, c'est clairement moins. Enfin, déjà, ce qu'on constate, c'est que souvent, quand t'as des sollicitations, nous, on répond quasiment spontanément, tout de suite. On essaye, ou alors à la fin de la journée, et on constate que, enfin, c'est les mecs, ils ont souvent tendance à laisser de côté, tu vois. Si c'est fini la journée, ils vont pas regarder. Il va falloir qu'on les relance.
Du coup, ça fait un truc de rapport à l'engagement particulier, de avoir des choses à faire et il faut les tenir, assurer sur les choses, sur ce que vous fixez comme.
Ouais, c'est ça. Enfin, c'est clairement ça. Alors après, on essaye de dans la journée. Si c'est dans la journée, on le fait du tac au tac. Si c'est le soir, on explique qu'on répondra plus tard. Et une fois que ben le quotidien est géré, on y revient. Et alors après, sur la répartition des tâches, on essaye quand même d'être vachement vigilant. Mais c'est vrai qu'on reporte en fin de soirée, on le reporte à plus tard, quoi. À l'après soir des enfants. Je sais pas comment on dit ça, mais c'est ça.
À la nuit syndicale.
La nuit syndicale, ouais. Elles sont pas mal longues, les nuits syndicales.
Il y a certaines de tes activités qui sont plus de l'ordre du militantisme et d'autres plus de l'ordre du syndicalisme, et du coup t'es obligé de faire la différence.
Ouais, clairement. En tant qu'agent d'accueil, on avait une certaine latitude sur ce qu'on pouvait faire, qui est de moins en moins possible parce que tout est informatisé, contrôlé. Donc du coup, moi j'ai mes convictions syndicales et personnelles qui font que je suis pour aider les usagers pour que leurs droits soient respectés, et on est de moins en moins là-dedans. Donc du coup, c'est hyper compliqué quand je reçois un assuré et que je sais qu'il a des droits et qu'on lui dit que c'est pas possible, parce que humainement je sais pas faire, en fait. Donc du coup tout ce que je défends dans le rôle syndical, c'est que derrière on puisse répondre aux besoins des usagers et que leurs droits soient respectés.
Et ça peut être réprimé, quoi, au niveau de la direction?
Ah ben oui, clairement, parce que maintenant tout est informatisé, tout est contrôlé, et il y a vraiment beaucoup de contrôle. Donc derrière, oui, il y a des choses qui sont pas possibles et qui sont sanctionnables. Ça, c'est juste très compliqué à gérer quand t'es un militant et que tu veux faire ton boulot et que t'en es empêché. C'est hyper compliqué. C'est ce qu'on constate de plus en plus de partout. Maintenant, l'usager, il est responsable de son dossier. Et que s'il fait pas, c'est pas notre problème. On n'est plus dans l'information, on est dans la culpabilisation. C'est que maintenant, c'est l'usager qui doit savoir comment est-ce qu'il doit faire. Il doit se débrouiller. Donc Amélie, bien sûr, hein, tu te démerdes. Alors qu'avant, c'est nous qui informions, on aidait, on accompagnait. Maintenant, tu dois aider, accompagner pour Amélie. Tu dois pas aider sur les droits. C'est de la... Je sais pas comment on appelle ça, tu démerdes toi, quoi. Et on ne doit plus informer. Alors que si tu me parles de mécanique, j'y connais rien. Et voilà, moi mon rôle, c'est d'informer les gens sur ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Maintenant, ça marche plus. Si tu dois juste dire, va sur Amélie, tu verras, tout est marqué, cherche l'information toi-même et débrouille-toi. Moi, je fais pas ça.
Comme t'as l'impression que ça s'est mélangé, ce truc syndical de soutien des salariés et militant de soutien des usagers, et que ça a été reproché au niveau de la direction?
Ouais, c'est reproché parce qu'on nous dit qu'on n'est pas objectif et que eux ils sont là pour faire en sorte que le salarié fasse son boulot, et que derrière on est tous conscients qu'il y a un assuré, sauf que quand on doit respecter leurs objectifs et rentrer dans les quotas sur par exemple pour les indemnités journalières, les gens qui sont en arrêt, des fois si on se trompe, c'est pas grave, mais du moment que on est payé dans les délais, alors qu'on est loin d'être dans les délais, mais les erreurs, c'est pas grave. Alors que si t'as un usager qui est intérimaire, faut lui prendre ses 12 mois de salaire, alors qu'on peut le payer sur 3 mois et qu'il a pas beaucoup travaillé, donc ça le pénalise. Mais ça, c'est pas grave. Du moment qu'il est payé, si on lui paye une fausse indemnité journalière, c'est pas grave. Alors que non, le montant est aussi important.
C'est quoi les conséquences du télétravail là à la Sécu ?
C'est dramatique parce que t'as un isolement des salariés, t'as plus du tout de collectif et pour les mamans, elles ont leur travail à faire, au travail professionnel, plus les enfants à gérer, plus les repas et tout ça dans la même journée. Donc du coup, ça fait des journées qui sont assez lourdes, sans diminution forcément de la quantité de travail hein, qui reste la même, voire plus parce que avec les arrêts qu'il y a eu là du fait de la crise sanitaire, il y a eu plus d'arrêts maladie qu'on n'en a jamais connu. Donc du coup, on a une quantité de travail qui est identique, voire plus élevée, et le quotidien de la maison à gérer, avec pas forcément un bureau adapté ou des conditions de travail. Mais du coup, c'est pas joyeux. Après, ce qu'on voit, c'est qu'on a un nouveau siège qui est prévu sur l'agglomération grenobloise et qui diminue nettement le nombre de mètres carrés. Donc non seulement on va avoir des suppressions de postes, mais on va avoir de plus en plus de télétravail, donc complètement une caste du collectif. Et du coup, sur le travail syndical, ça a un gros impact. C'est que avant on passait dans les services, on voyait tout le monde. Maintenant, on voit de moins en moins de personnes et que du coup, on est contraint à passer par mail et donc t'as moins de retours. On perd aussi le lien avec les salariés et donc ça complexifie le travail syndical.
Et là, ils vont profiter du coup de la crise sanitaire pour normaliser le télétravail, quoi.
Ouais, alors là, ça c'est clair. En plus, avant la crise sanitaire, la Sécu, elle était, parce que la Sécu qui est quand même qui a un rôle social non négligeable, on avait pris un axe, l'axe que décidé par le national, c'était en 2024, on doit être dans le tout numérique. Donc le tout numérique, ça veut dire Amélie. Et donc là, c'était 2024, mais avec la crise sanitaire, bah c'est 2021, c'est déjà acté quoi. Aujourd'hui, c'est si tu veux avoir un contact avec la Sécu, tu t'ouvres un compte Amélie. Donc là, la crise sanitaire, elle a vraiment bon dos pour accélérer le tout numérique. Et c'est loin d'être dans le sens du large de la population, quoi. Ça, c'est vraiment un gros, gros point négatif. C'est profiter de la crise sanitaire pour accélérer le tout numérique. Avant, tu vois, quand tu créais un dossier pour un assuré, c'était un agent qui le saisissait, qui avait un papier, un formulaire, et qui enregistrait, qui créait. C'était tout fait manuellement. Et ben maintenant, grâce à la crise sanitaire, c'est un logiciel. C'est tout fait automatiquement. Ça veut dire que t'as plus besoin d'un agent. C'est automatique, donc ça accélère aussi le nombre de suppressions de postes. On a plus d'encadrement, de managers de contrôle que d'agents liquidateurs.
C'est quoi un agent liquidateur ?
Un agent liquidateur, c'est celui qui traite un dossier. Ah. Mais on a plus de personnes qui contrôlent le travail que d'agents qui traitent le dossier. C'est fou quand même, hein ?
Qu'est-ce qui s'est passé quand la parité elle a été imposée au niveau syndical ?
Alors chez nous, ça a été on est un peu atypique parce qu'on a une population plus élevée au niveau féminin et du coup, la parité des élus doit correspondre à celle de l'entreprise et on a eu du mal à trouver des mecs qui ont bien voulu assumer la charge de travail et prendre parce que des fois c'est très souvent c'est musclé les réunions et prendre la parole, enfin déjà être sur les listes, ça a été compliqué et après prendre la parole en instance face à la direction, on se rend compte que les seuls qui l'ouvrent, c'est nous les filles quoi, on y va et on ose dire les choses. Donc, ce qu'on voit, c'est que les mecs, souvent, ils le font pas, quoi.
Autour du fait de s'énerver, d'être en colère, je sais pas, est-ce que t'as des choses à raconter là-dessus ?
Ouais, ça arrive très souvent, surtout, en réunion avec la direction, parce que ils ont tendance à nous juger et à se préjuger de ce qu'on est en capacité de faire ou pas. Et donc on leur rappelle que bah déjà ils ont pas à nous juger et pas à estimer devoir nous fournir ou pas des documents du moment qu'on les demande et que c'est marqué à l'ordre du jour, bah ils ont une obligation de le faire. Et quand ils présument ou préjugent, je sais pas comment on dit, de savoir si on est en capacité de comprendre ou pas, bah ça clairement ça passe pas. Donc il y a des fois où il y a des petits dérapés verbaux mais complètement assumés. Et c'est vrai que les réunions sont longues, épuisantes, parce que c'est vraiment c'est du tac au tac. Et puis, pour eux, ils n'ont pas envie, ils ont envie de bâcler les choses, alors que nous, c'est important d'avoir les réponses claires à nos questions, parce que c'est des questions qui viennent des salariés et qu'il leur faut une réponse claire. Et souvent, ils bottent en touche. Alors du coup, on a un peu les poils à gratter. Hein. Quand on pose une question claire, on veut une réponse claire. On ne veut pas des réponses qu'ils nous donnent. Donc du coup, c'est un combat, en fait. Hein. On va au combat pour avoir la bonne réponse et qu'ils négligent pas la question qu'on leur a posé.
Et quand le directeur, c'est ça, il veut pas te donner un document en disant de toute manière tu vas pas le comprendre, tu le vis comme quelque chose de misogyne?
Enfin, c'est clairement pas supportable et ouais, c'est il y a quelque chose derrière qui est pas clair quoi. Et oui, c'est moi je l'ai mal vécu en tout cas et du coup d'où ma réaction. Une fois que c'est parti, c'est compliqué après de redescendre, mais il y a des choses qu'il faut pas laisser passer. Et en l'occurrence, je pense qu'il a clairement dit que je pouvais pas comprendre parce que j'étais une fille et que c'était un document technique, mais derrière il est pas, enfin voilà, c'est, il a pas à se préjuger de ce que je peux comprendre ou pas comprendre, et que si à la rigueur je peux pas comprendre, bah il a qu'à me l'expliquer aussi. Ça fait partie de son boulot. Moi, je peux lui expliquer ce que met mon boulot d'agent d'accueil, il y a pas de souci, hein, je peux le faire. Donc il a qu'à expliquer son boulot et puis s'il savait le faire correctement, il y aurait pas eu de problème. Moi, je suis assez contente quand même. Enfin, je suis assez contente. Je suis même super contente d'avoir ce rôle militant et syndical, parce que ça t'apprend plein de choses. Tu rencontres plein de gens. Et si je restais dans mon monde professionnel, je me ferais vraiment chier, quoi. Surtout que voilà, maintenant, on est que dans le contrôle et que dans. Enfin, on est dans la dématérialisation. On fait plus notre boulot. On n'est plus des agents d'accueil. On est des conseillers de service à l'assurance maladie. Donc, qui dit service dit dématérialisation, Amélie et tout ce qui va avec, quoi. Donc, ouais, moi, j'ai trouvé un équilibre dans ma vie professionnelle grâce à l'engagement militant et syndical.
Sur Radio Campus 90.8 avec Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
C'était la chanson Chômeuse du groupe GAM, un groupe belge engagé. Ce morceau n'est pas sans rappeler ce qui se passe côté français avec la réforme de l'assurance chômage qui rentrera en vigueur en janvier 2021 et qui pénalisera 1,7 million d'allocataires avec la perte totale ou partielle de leurs droits. Nous allons maintenant vous lire un texte sur le travail du sexe qui a été publié sur le site du Stras en avril 2021. 5 ans après l'adoption de la loi de pénalisation du client, le constat est sans appel pour les associations. Loin de lutter contre la traite des êtres humains et de protéger les travailleuses du sexe, elle a au contraire précarisé et affaibli ce public déjà stigmatisé. Les conséquences principales sont une augmentation de la violence, un isolement plus grand, une santé fragilisée et un parcours de sortie qui correspond au volet social de la loi, inadapté aux réalités. Par ailleurs, depuis 1 an, le Covid a largement aggravé la situation des travailleuses du sexe, sans qu'aucune solution à la hauteur du problème n'ait été proposée. Le 13 avril 2016 était adoptée une loi pour lutter contre le système prostitutionnel avec 4 axes principaux. Lutter contre le proxénétisme et la traite des êtres humains, accompagner les personnes se prostituant vers un parcours de sortie, pénaliser les clients de la prostitution et activer des mesures pour prévenir l'entrée dans la prostitution. Malgré les alertes constantes des associations et du défenseur des droits sur les conséquences désastreuses de cette loi, c'est bien la logique répressive qui prend le dessus au détriment de la santé des travailleuses du sexe. Les lois répressives du travail sexuel vont à l'encontre d'une approche globale en santé qui prend en compte les aspects de prévention, de soins, d'accompagnement social et de soutien aux actions communautaires. Nous dénonçons avec force la volonté de faire primer une logique abolitionniste au détriment d'une prise en compte des besoins réels des travailleuses du sexe et de leurs revendications. Nos associations s'appuient sur leurs pratiques de terrain depuis des années et le vécu des travailleuses du sexe pour dresser un bilan, 5 ans après la mise en place de la loi de pénalisation. Déjà développée dans nos réponses à l'évaluation de la loi de 2016, nous dénonçons les conséquences négatives de ce texte de loi sur plusieurs aspects. Tout d'abord, en amalgamant proxénétisme et traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, cette loi ne permet pas de lutter efficacement contre l'exploitation des personnes. Cette logique représente un obstacle à la compréhension des réalités vécues par les personnes et ne permet pas de lutter efficacement contre les réseaux de traite. Ensuite, le parcours de sortie prévu par la loi de 2016 n'est pas à l'auteur de l'enjeu. C'est une réponse inadaptée avec un budget sous-estimé assorti d'une condition d'arrêt du travail sexuel qui ne correspond pas aux besoins réels des personnes. L'angle répressif qu'implique la pénalisation des clients ne permet pas d'inclure une vraie politique de santé et au contraire, les effets sont désastreux d'un point de vue sanitaire. La criminalisation du travail sexuel a un véritable impact délétère sur la santé des personnes. Difficulté à imposer le port du préservatif et donc augmentation des IST, risque psychologique accru, isolation et éloignement des structures d'accompagnement, rupture de soins. Depuis 2016, nous observons une véritable dégradation de la santé des travailleuses du sexe que nous rencontrons sur le terrain. La pénalisation des clients a surtout eu pour effet de rendre l'activité du travail du sexe plus dangereuse, plus à risque pour la santé des personnes et plus compliquée à gérer psychologiquement. Globalement, la santé des travailleuses du sexe s'est détériorée, affirme Philippe de Botton, président de Médecins du Monde. Enfin, les violences ont augmenté en nombre et en intensité, ainsi que la stigmatisation. En effet, les associations contestent de manière unanime une augmentation des vols. Vols avec violence, c'est-à-dire coups et blessures souvent graves, des violences sexuelles, de la négociation systématique des tarifs et des pratiques, acceptation plus fréquente de rapports non protégés par manque de ressources financières, exercice de l'activité dans des lieux plus reculés ou isolés, ce qui favorise les agressions. Nous avons pu constater une forte augmentation des faits de violence qui nous a été rapportée ces 4 dernières années. Ces agressions ont atteint cette année un degré de violence rarement vu. Violence série, tentative de meurtre, agression couteau, dénonce l'association Kabiria à Lyon. Depuis 1 an, la situation des travailleuses du sexe est un angle mort des mesures gouvernementales. Or, c'est un public extrêmement exposé à la Covid-19 et qui subit de plein fouet les mesures restrictives telles que le confinement et le couvre-feu. Durant cette crise sanitaire, nous avons pu constater que la loi de 2016 a entravé les capacités de soutien de l'État pour l'action sociale en faveur des travailleuses du sexe. Les associations ayant une approche communautaire se sont vues refuser les moyens nécessaires pour soutenir les personnes dans l'accès aux produits de première nécessité, dans l'accès au logement, dans l'accès à la santé en raison de leur positionnement. Avec la Covid-19, la violence s'est décuplée, mettant les TDS en danger et en grande précarité. L'isolement et les expulsions se sont accentués avec la crainte de la contamination. Une fois encore, les TDS sont les grandes oubliées de la crise, affirme l'association Griselidis à Toulouse.
Est-ce que je travaille dans un sens, je suis obligée, parce qu'on est dans une société capitaliste qui fonctionne du coup sur des échanges autour de l'argent. Donc je travaille pour gagner de l'argent, mais je travaille aussi parce que j'aime mon travail. Est-ce que je trouve un sens à mon travail? Oui, et je le trouve d'autant plus qu'en ce moment je ne travaille pas. Du coup, ça m'a posé les questions de pourquoi est-ce que je faisais ça.
Parce que j'ai besoin de pouvoir avoir un salaire, parce que d'abord j'ai 2 enfants et que j'ai besoin en tout cas de pouvoir financer un appartement. Et voilà, et concrètement, je travaille aussi parce que je travaille dans l'éducation nationale, parce que j'estime que je peux encore là, en tout cas,
apporter quelque chose à la jeunesse et leur montrer parfois d'autres choses qu'ils ne verront pas. Voilà. Non, je pense que le travail, en tout cas tel qu'il nous l'est proposé aujourd'hui, c'est vraiment une organisation des masses pour non seulement nous contrôler, mais en fait maintenir un ordre, et cet ordre il est global. Le salariat, c'est une vraie dépendance qui est mise en place. Moi, je voudrais rajouter que, en fait, j'apporte mon soutien à toutes les femmes dans le monde qui sont en train de lutter, donc toutes les femmes en lutte, et que nous organisons le 10 et le 11 juillet sur Notre-Dame-des-Landes, donc la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la première rencontre des femmes en lutte et féministes, avec la venue notamment de la délégation des femmes zapatistes qui viennent en Europe. Et que du coup, j'invite toutes les femmes à converger vers là-bas et à venir participer et à dire ce qu'elles ont à dire. Et que j'espère que ce sera la première rencontre de plein d'autres. Parce que c'est là qu'on va organiser la résistance.
Alors, pourquoi je travaille ? Eh bien, je travaille parce que il y a plusieurs raisons, je crois. Il y a ce que je fais qui m'intéresse beaucoup, et il y a aussi le fait que c'est quand même dur d'organiser son temps tout seul et de structurer ses journées tout seul. Des fois, je me dis que c'est quand même bien pratique de que le temps soit structuré par le travail et pas juste par moi et mon autonomie qui parfois est défaillante. Alors, est-ce que je trouve que mon travail a un sens ? Oui, ça a un sens. Moi, je travaille dans le champ de la santé communautaire. Du coup, pour moi, le sens, il est évident. Alors, est-ce que je mets un sens dans mon travail ? Ouais, je mets un sens particulier dans le sens que, comme c'est un travail communautaire, c'est pas juste de bosser pour un accès aux droits, c'est de bosser de ma place de l'intérieur de la communauté pour la communauté. Oui, pour moi, il y a un sens tout spécial à ça.
Pourquoi est-ce que je travaille ? Pour contribuer, pour donner du sens à ma vie et pour contribuer à la société. Alors, est-ce que je trouve que mon travail a un sens ? Oui, j'accompagne des personnes qui sont en situation de handicap et je les aide à se maintenir chez eux si c'est leur souhait, ou à être orientées ailleurs s'ils veulent être orientées ailleurs. Du coup, je trouve que ça a un sens dans une société qui laisse très peu de place aux personnes en situation de handicap. Après, j'aimerais ne pas en avoir, enfin que la société en ait pas besoin en fait, et qu'on puisse que la société soit adaptée aux personnes en situation de handicap. Ce serait... Quel sens je mets dans mon travail ? Alors, j'essaye de pas être validiste. Le sens que je mets dans mon travail, c'est de me dire que je suis là aussi, payée par la société, par la solidarité nationale, pour permettre aux personnes en situation de handicap de participer à la vie collective et à vivre une vie épanouie et vivre la vie qu'ils ont envie de mener malgré tous les obstacles qu'il peut y avoir dans la société.
Pourquoi est-ce que je travaille ? Alors, j'ai moi une conception de la société. En fait, comment dire, je suis quand même marxiste, donc c'est-à-dire que je pense qu'on est dans une société dans laquelle il y a des personnes qui ont les moyens de ne pas travailler, des personnes qui n'ont pas les moyens de ne pas travailler. Et alors moi, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que j'avais besoin d'un salaire, voilà, donc le salariat, quoi. Il y avait besoin du salaire, tout simplement. Donc à la fin des études, il faut pouvoir obtenir de l'argent. Et après, bon, moi, j'ai de la chance en plus de faire un travail qui a un petit peu quand même du sens pour moi, bien que je sois critique de cela aussi, puisque ça reste un travail contre salaire, etc. Mais c'est vrai que je fais un travail qui en plus me tient beaucoup à cœur, en fait. Voilà. L'enseignement, et en plus en particulier de la philo, je trouve que c'est génial. Donc voilà, pour toutes ces raisons.
Est-ce que je travaille ? Non, parce que je suis collégienne. Je suis collégienne en troisième, donc pour l'instant je travaille pas. Je pense que plus tard je travaillerai. Dans un premier temps, je pense que ce sera plus une histoire d'argent, parce que je devrais combler mes fonds étudiants. Parce que les étudiants, ils ont pas assez d'argent pour vivre sans travailler pour l'instant. Surtout si je veux avoir mon appartement, etc. Mais si j'ai l'occasion de trouver ce que je veux et que c'est suffisamment rémunéré par rapport à ce que c'est, J'essaierai de travailler pour le plaisir, c'est sûr.
Sur Radio Campus Grenoble 90.8 avec Dégenré, l'émission féministe pour déranger.
Du coup, on arrive à la fin de notre émission. On vient d'écouter le dernier morceau des micro-trottoirs qui ont été enregistrés pendant la manifestation du 1er mai à Grenoble et suivi d'un morceau de Béchamel intitulé « Fatigué ». Là, on voudrait donner la parole à Cynthia qui voulait parler de la situation actuelle en Colombie. Cynthia, à toi.
Lecture d'extrait du communiqué à l'opinion publique nationale et internationale du 6 mai 2021. Lesbiennes rebelles de la Colombie, SOS Colombia, ils nous tuent. Nous sommes des lesbiennes féministes de la Colombie et avec inquiétude, douleur et indignation, nous voulons dénoncer, devant les yeux de l'Amérique latine et du monde, le massacre de notre peuple. Aujourd'hui, nous élevons notre voix contre les mesures néolibérales et nécropolitiques d'un État négligent et meurtrier qui, du gouvernement actuel d'Ivan Duque et du Parti du Centre démocratique, dirigé par l'ex-président Álvaro Uribe Vélez, celui que nous considérons comme le plus grand génocidaire du peuple colombien, compte continuer à enrichir les plus riches et appauvrir et assassiner les plus pauvres. Depuis le mercredi 28 avril 2021, il y a un grand soulèvement populaire qui envahit les rues de la Colombie depuis ses différents secteurs. La motivation initiale était de renverser la dernière réforme fiscale du gouvernement Duque, par laquelle on cherchait que les secteurs les plus touchés actuellement par la pandémie assument de leur économie précaire le déficit budgétaire généré par la mauvaise gestion et la corruption. Celui-ci pourrait également être remplacé par le budget investi dans la guerre, la réduction des salaires des magistrats, des sénateurs, des membres du Congrès, des hauts fonctionnaires, et en effectuant un contrôle politique et fiscal fort pour éliminer la corruption qui nous afflige depuis des décennies, ainsi qu'en percevant les justes impôts sur les grandes nationales et les capitaux internationaux privés qui utilisent aujourd'hui notre main-d'œuvre et nos ressources naturelles.
Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo.
La grande mobilisation au niveau national des secteurs populaires a fait que le dimanche 2 mai, le président Ivan Duque a annoncé le retrait de la dite réforme et que plus tard, le ministre des Finances Alberto Carrasquilla a démissionné de ses fonctions.
L'intention du gouvernement était que ces événements renvoient la population à l'apparente léthargie dans laquelle ils ont réussi à la maintenir pendant des décennies. Cependant, il est clair pour celles d'entre nous qui connaissent l'autre et les autres histoires de la Colombie que ce peuple n'a pas été endormi, mais a été effrayé par une oligarchie sanguinaire qui, face à un éventuel bourgeon de transformation sociale, politique et bien sûr de transformation économique du pays, a réagi de la manière la plus violente, exterminant chaque personne et mouvement qui s'oppose à leurs intérêts de classe, en complicité avec les multinationales, les médias de masse, les forces militaires, les paramilitaires et les réseaux de narcotrafiquants. À travers les réseaux sociaux et les médias alternatifs, on dénonce en même modus operandi par la police, ESMAD, Escouade Anti-Émeute Mobile, et l'armée, en complicité avec les groupes paramilitaires sur tout le territoire national, qui utilisent des armes à feu, tanks de guerre et en plus des hélicoptères qui atterrissent dans des zones non autorisées à l'intérieur des centres-villes. Ce sont les chiffres que nous avons des violations présumées des droits humains entre 6h du matin le 28 avril et 10h le 6 mai. En Colombie, 1728 cas de violence par la force publique se sont produits au niveau national, parmi lesquels les suivants ont été identifiés. 37 victimes de violences homicides, 11 victimes de violences sexuelles, 234 victimes de violences physiques, 98 cas de tirs d'armes à feu, 26 victimes d'attaques oculaires, 934 arrestations arbitraires contre les manifestants, 341 interventions violentes dans le cadre de manifestations pacifiques. On a des informations sur 379 disparitions au cours des journées de protestation. Ce qui se passe aujourd'hui dans les rues des villes et des zones rurales de Colombie est clairement un terrorisme d'État pour arrêter la mobilisation sociale généralisée dans le pays. En tant que lesbienne, féministe, militante et membre de différentes organisations lesbiennes de la Colombie, nous crions à l'unisson et avec véhémence, gouvernement du Duque et uribisme, arrêtez le massacre, les messages haineux et la manipulation de l'information. Nous exigeons du respect et des garanties pour l'exercice de la protestation sociale où le souci de la vie est au centre. Justice pour les manifestants manifestantes assassinés et violés lors des récentes manifestations. Nous appelons la communauté et les organisations internationales à prendre des mesures catégoriques qui obligent le gouvernement d'Ivan Duque à se conformer aux accords et protocoles internationaux que l'État colombien a signés sur les défenses des droits de l'homme dans le cadre du droit international humanitaire, DIH. SOS Colombie, merci de contribuer à diffuser de toute urgence par tous les moyens de communication possibles cette déclaration et les plaintes qui circulent. Nous avons besoin de beaucoup de regards sur la Colombie depuis Abiyala, Amérique latine, les Caraïbes et le monde pour faire pression sur l'État et ainsi arrêter ce bain de sang, car hier et aujourd'hui, il continue de nous tuer. Lesbiennes contre la guerre, lesbiennes contre le capital, lesbiennes contre le machisme, contre le fascisme, contre le terrorisme néolibéral. Si les gens descendent dans la rue pour marcher au milieu d'une pandémie, c'est parce que le gouvernement est pire que le virus. Vive la grève nationale!
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.